Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonsoir à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et on commence à retrouver ces hivers merveilleux où Shabbat rentre très tôt, puisque on a bougé la montre samedi dernier. Et on va réfléchir un peu avant avec Rav Eli Lemel qui est en ligne avec nous. Bonsoir Rav Lemel.
Bonsoir.
Alors Rav Lemel, on va parler de l'une des parachiotes les plus discutées, qui s'appelle Lech Lecha, les plus connues et les plus discutées. Et dans Lech Lecha, on voit Abraham chercher à convaincre. Alors d'abord, faire des conversions, se convaincre pour Sodome et Gomorre, mais je vais essayer de voir de sauver une ville, où apparemment d'ailleurs c'est pas forcément des juifs, j'en sais rien, c'est vous qui m'expliquerez ça. Et vraiment, c'est toute une attitude de Abraham qui, au demeurant, pour une dispute de berger, fera tout à fait le contraire, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais ça pose plusieurs questions, me semble-t-il, et c'est vous qui répondez. D'abord, déjà, dans le judaïsme, on ne cherche pas à convertir les gens. Donc, pourquoi c'est très très bien que Abraham le fasse, et puis tout d'un coup, nous, on ne le fait pas. Parce que c'est pas l'idée du judaïsme. Le judaïsme, c'est, il faut être force, il faut bien faire les choses. On ne cherche pas à les convaincre les autres. Et puis, après, y a toute cette histoire de, comme je disais, chercher à convaincre. Donc, dites-nous exactement ce que ça vous amène comme réflexion et que vous souhaitez partager avec nous.
Exact. Alors, c'est vrai qu'on est dans un moment d'histoire dans lequel les fondamentaux du peuple juif, de ce qui va s'appeler par la suite, évidemment, le peuple juif, sont en train de se mettre en place. Et donc, on a un certain nombre de textes, surtout du Midrash, qui nous relate un petit peu tout le cheminement d'Abraham et puis la confrontation qu'il va avoir avec le roi qui est présent à l'époque, Nimrod, avec ce fameux épisode dans lequel celui-ci va demander à Abraham de mettre de côté sa démarche militante, on va dire. Et puis on le met dans la fournaise. Et puis on a aussi cette confrontation qu'Abraham a avec les univers dans lesquels il vit au quotidien, puisque c'est qu'il va chercher à briser les idoles, physiquement, ce qui est quand même très curieux. Après, comment Dieu lui demande de partir. Enfin, il y a quelque chose quand même qu'il faut essayer de comprendre. Quelle est la démarche d'Abraham? Alors évidemment, je ne suis pas du tout au niveau pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est joué par rapport à Abraham, mais qu'est-ce que la Torah est en train de nous apprendre, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire. Alors, tout d'abord, essayons de réfléchir un instant. Abraham, est arrivé à la conclusion que l'univers avait un créateur, mais ce n'est pas celui qui a fait émerger le monothéisme. Qu'on soit bien clair, ce concept-là existe bien avant. On voit qu'avec Noé, Dieu s'adresse à Noé. On voit qu'il y a Shem et Ever, qui sont les descendants de Noé, qui transmettent. Il y a cette notion d'un créateur, de ce qu'on appellerait le monothéisme, est quand même présente. Seulement, ce qui est intéressant de voir, c'est que Abraham, lui, va chercher à répandre cette vision du monde dans l'univers. Et avec cette question, pourquoi ? Au fond, tu vis dans une société dans laquelle les gens ont une autre vision des choses. Les gens sont passés du monothéisme au polythéisme. Ils ont créé des systèmes. Alors c'est vrai que si ces systèmes étaient complètement pervertis, on peut comprendre qu'à un moment, tu as envie de t'y opposer. Mais quand les systèmes vont se pervertir avec Sodome et Gomorre, comme par hasard, là, Abraham, il est là, il dit non, il faut les laisser vivre. Surtout pas, faites attention, Dieu, je t'en supplie, il y a peut-être 45, 40, 30, 20, 10 personnes justes. Donc c'est quand même curieux. Abraham, je ne comprends pas, soit tu considères que tu dois détruire les systèmes autres, soit tu... Mais qu'est-ce qu'il cherche? Alors, rappelons-nous que Abraham va être appelé par la suite Av Hamon Goyim, d'accord? C'est-à-dire qu'on va donner à Abraham le nom d'Abraham parce qu'il s'appelle au début Abraham et après Avraham, parce que Av Hamon Goyim. il est littéralement le père d'une multitude de peuples. C'est intéressant de voir ce nom-là, le père d'une multitude de peuples, parce que c'est quoi au fond la relation? Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette notion de père? Si on réfléchit, il y avait peut-être différentes manières de dire les choses. Or là, on parle d'un père. Mais pourquoi un père? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Regardez, si vous êtes parent et que vous avez un certain nombre d'enfants, est-ce que vous imaginez un parent qui se respecte à dire « Bon, ben, sur les 5, 7, 8 enfants que j'ai, voire plus, bon, il y en a 2, 3 qui font tout et n'importe quoi, qui sont en train de faire des bêtises, qui sont en train un peu de louper leur vie, mais bon, ça va, il en reste d'autres. » Non. Évidemment, le propre d'un parent, c'est d'être préoccupé par la totalité de ses enfants. Et Abraham, déjà, a un regard sur le monde, et c'est très lié à son concept d'altérité, à l'image d'un père vis-à-vis de ses enfants. C'est-à-dire qu'Abraham est là, et n'est pas celui qui se positionne en tant que père, évidemment, mais celui qui ressent la relation à l'autre comme un père ressent la relation avec ses enfants. Il est préoccupé par l'autre, et Abraham, au fond, ce qu'il bouleverse, eh bien, c'est d'être dans un monde dans lequel il a l'impression que les gens vont passer à côté de leur vie. N'oublions pas que le polythéisme, au fond, c'est une manière de ne pas se poser la question du projet, puisqu'on est dans un monde dans lequel il n'y a pas de volonté suprême qui est à l'origine de tout, mais dans une multiplicité d'énergies de toutes formes, que l'on va appeler des divinités, qui chacune agit dans là où elle se trouve, et puis voilà, et puis la vie continue. Or, dès le moment où on est dans cette vision d'un créateur, c'est que nécessairement il y a volonté première, et à partir de cela, eh bien, projet dans lequel je fais partie. Et Abraham, au fond, ce qu'il bouleverse, c'est de réaliser que l'humanité ne s'inscrit pas à l'intérieur d'une démarche qui donne du sens à sa vie. Le fait que le quotidien de l'autre se passe correctement, c'est une chose. Mais le fait que l'autre passe à côté de la raison pour laquelle il est dans l'univers, c'est quelque chose de bouleversant. Et donc, qu'est-ce que Abraham va faire ? Abraham va avoir une démarche très très intéressante. Abraham ne va pas chercher à convaincre en premier lieu, il détruit les idoles. C'est-à-dire quoi détruire les idoles? Alors évidemment, s'il casse l'idole, je suis sûr qu'il la paye. Mais il est en train de dire à ceux qui l'entourent, vous savez ce que vous faites au fond, ça vaut rien. Et il engage avec eux un dialogue. Il engage avec eux un échange. Abraham est en train d'amener les gens à s'interroger parce que quand la personne dit à Abraham, Abraham, pourquoi tu brises les idoles? Abraham dit, mais explique-moi, qu'est-ce que ça vaut? Pourquoi c'est si important pour toi? Qu'est-ce que ça représente? Il amène les personnes à s'interroger sur la raison pour laquelle ils sont dans cette démarche. Et à partir de cela, évidemment, d'arriver peut-être à une conclusion que là où ils sont, ce n'est pas vraiment là où ils devraient être. Et à partir de là, se tourner vers une autre lecture du monde. Abraham, ici, il y a une démarche au fond pédagogique très intéressante. Vous savez, il ne sert à rien de convaincre quelqu'un d'aller dans un lieu qui lui correspond mieux, s'il n'est pas arrivé à la conclusion que là où il se trouvait, ce n'est pas véritablement là où il doit être. À l'image, même si l'image est un petit peu forte, d'une personne qui serait dans l'univers de la drogue et qui a besoin d'abord de comprendre la toxicité du système dans lequel il se trouve avant de faire le choix de se bouger, d'aller vers ailleurs. Abraham, c'est ça sa démarche. Abraham, il est celui qui pousse l'individu à s'interroger sur le sens du mouvement qui est le lien, qui est le sien, pardonnez-moi, à s'interroger sur le pourquoi de sa présence dans tel et tel cadre. Vous savez, c'est comme dans le mariage. Tant qu'on n'est pas arrivé à la conclusion que le célibat, ce n'était plus vraiment là où on voulait être, alors le mariage risque de se passer difficilement. Pourquoi ? Parce que le mariage ne sera que l'espoir d'un mieux, alors qu'en vérité, c'est l'étape suivante. Et si vous allez vers un nouvel univers dans l'espoir que celui-ci se passe mieux que là où vous étiez précédemment, vous risquez fort d'être déçu. Donc Abraham, c'est ce qu'il fait. Abraham, parce que justement, il est Abhamon Goyim, il est le père d'une multitude de peuples. Abraham, il est celui qui est là et qui brise les idoles et qui dit, mais au fond, expliquez-moi pourquoi ça a de l'importance. Mais est-ce que vous-même vous êtes interrogé là-dessus? Mais est-ce que vous savez vous expliquer à vous-même la démarche qui est la vôtre? Et à partir de là, Abraham peut leur dire, eh bien, il y a peut-être une autre lecture du monde et de l'histoire, et donc les choses vont s'ouvrir. Et c'est intéressant parce que Abraham, donc, va avoir cette démarche et il prend des risques, mais il prend des risques Parce que justement, il aime les autres. Parce qu'il aurait pu se dire, au fond, chacun sa vie, chacun son chemin. C'est pas mon problème, c'est le leur. Ils n'ont pas envie d'aller dans une vie qui a du sens. C'est leur choix, c'est leur problème. Et il aurait pu en plus dire, mais je ne veux pas prendre de risque parce qu'à un moment, proposer une autre lecture à l'intérieur d'un système dérange. Parce que les systèmes aiment rester dans le confort de leur vision du monde. Et Abraham, eh bien, prend des risques et on va le voir. Puisque Nimrod, le roi de l'époque, va chercher quoi ? À le détruire. Nimrod va vouloir le mettre dans la fournaise ardente. Parce que cette fournaise, au fond, c'est le symbole de quoi ? C'est le symbole de la disparition pleine et entière et totale de tout ce que représente Abraham. Vous savez, comme on le retrouve dans la fameuse Megillat Esther, quand Aman, notre ennemi juré, veut détruire le peuple d'Israël, le Gaon Mivilna nous explique en analysant les versets, « Afilou Agoufim, même les corps, faut les faire brûler. Que Deshéloïcher, Shem Israël Baolam, afin que le nom du peuple d'Israël ne reste pas dans le monde. » Mais le terme de Shem, qui veut dire le nom, ce sont les mêmes lettres que le mot Sham, qui veut dire là-bas. C'est-à-dire, afin que la direction que le peuple juif propose à l'univers ne soit plus présente. C'est exactement ce que Nimrod veut faire. Nimrod ne veut pas que ce que Abraham propose comme lecture de la vie soit présente dans sa société. Et à partir de cela, eh bien, il faut qu'il n'y ait aucun souvenir de ce que représente Abraham. Abraham, fort de ses certitudes, avance. Évidemment, sort de la fournaise et va continuer à répandre son message. Et c'est intéressant parce que même lorsqu'on va se retrouver face à l'épisode de Sodome et Gomorre, qui sont des sociétés qui se sont perverties, Abraham va vouloir les protéger. Pourquoi ? Parce que Abraham considère que c'est sans doute la méconnaissance qu'ils ont des choses qui les amène à vivre de cette manière pervertie. C'est-à-dire que Abraham, à un moment, se dit, mais si dans Sodome et Gomorre, il y avait peut-être un enseignement qui permettait aux gens de comprendre que la vie, c'est autre chose, peut-être que ça bougerait. Et donc, malgré leur dysfonctionnement, il a envie de leur donner les moyens de s'interroger et à partir de cela, de prendre une direction différente. Et c'est ce qu'il va faire. Le seul moment dans lequel Abraham va véritablement mettre de côté les choses, c'est quand ? C'est quand il est confronté avec ces fameux bergers de Lot qui remettent en cause même l'idée de l'autre. Puisque vous rappelez que les bergers de Lot volent. Ils sont en train de voler. Voler l'autre, c'est être dans le déni de l'autre, ne plus être du tout dans la préoccupation de l'autre. Face à un système comme ça, Abraham dit, là c'est beaucoup plus complexe. Mais si c'est juste une problématique de croyance, une problématique d'une vie dans laquelle on n'a pas envie de donner trop de sens parce qu'on n'a pas envie, comme on dirait un petit peu vulgairement, de se prendre la tête. Si c'est juste ça, alors c'est bon. Ça peut avancer, ça peut construire et c'est exactement ce qu'Abraham va faire. Et le dernier point, ce qui est très intéressant, c'est que Abraham va transmettre son message, mais il n'y a pas que lui qui va le transmettre, il y a son épouse. C'est-à-dire qu'Abraham est en train de nous dire qu'on est tous concernés par cela, qu'il n'y a pas en effet le rôle de l'homme et le rôle de la femme dans l'univers de la transmission. Chacun d'entre nous a cette responsabilité, à travers sa sensibilité, son modèle particulier, de transmettre et de partager ce message qui, en effet, va être à la source même du peuple juif. Voilà donc ici quelques pistes de réflexion sur cette démarche, qui est une démarche qui est au fond bouleversante. Abraham cherche à amener l'individu à s'interroger sur le sens de ce qu'il est en train de vivre au quotidien. À partir du moment où l'individu s'interroge et se questionne, on peut lui proposer une autre lecture. Et cette lecture qu'on lui propose, c'est par amour. C'est parce qu'on a envie que l'autre ait en main les éléments qui lui permettent de donner du sens à sa vie et à partir de cela, de construire une existence qui est remplie de sens.
J'ai jamais compris comment faisaient les patriarches et ensuite Moshe, Moïse, pour parler avec Dieu. J'ai jamais compris ça. Je pense que ça se trouve même, vous pourrez essayer de nous expliquer 20 fois. C'est tellement compliqué parce que la base de Abraham, justement, c'est celui qui discute pas. Et puis tout d'un coup, il décide de discuter. C'est vraiment, je parle sérieusement. Hein, c'est pas du tout une formule.
C'est ça qui est génial.
Ah oui.
C'est ça qui est génial, parce que, au fond, vous savez, quand Dieu va dire à Moshe qu'il doit sortir les enfants d'Israël d'Égypte, Moshe refuse. Pourquoi ? Il dit, mais parce que je fais quoi de la souffrance de mon frère Aaron, qui n'a pas été choisi, alors qu'il est plus âgé que moi ? C'est-à-dire que l'humain a cette liberté de questionner le divin à travers sa logique humaine. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, on a besoin d'exprimer le questionnement. Mais regardez, avec Abraham, c'est énorme. Parce qu'Abraham dit le texte, quand Nimrod, le roi de l'époque, veut le mettre dans la fournaise, Dieu ne s'est pas révélé encore à lui. Il ne s'est pas encore révélé à lui. Et on a ici une phrase qui est bouleversante. Cette phrase, c'est la suivante, c'est que Abraham, au moment où il va rentrer, il dit « V'rien balabait la bira ». Ça voudrait dire que Dieu n'est pas là. C'est-à-dire, si ma fonction, si mon rôle, c'est de révéler Dieu à l'univers, alors je dois rester en vie. Pourquoi je pars ? C'est ça la question d'Abraham. Il rentre dans la fournaise, malgré tout. Et au moment où il rentre dans la fournaise, Dieu se révèle à lui et lui dit « Hannibal Abira, je suis là ». C'est-à-dire qu'Abraham, ici, nous montre que la force du juif, c'est de poser une question et de dire « mais il y a quelque chose qui m'échappe, c'est pas logique, mais j'avance quand même ». Parce que la certitude profonde qui m'habite fait que je n'ai pas besoin de demander à Dieu en permanence de se justifier. Et c'est à ce moment-là où véritablement Dieu se révèle. Il y a quelque chose d'énorme, mais au fond qui va être, j'ai presque envie de dire, l'épine dorsale de tout le peuple d'Israël dans l'histoire.
Jusqu'aux otages, jusqu'à hier, jusqu'à aujourd'hui. Les otages, exact. Ce matin dans la presse, dans Israël Hayom, dans Ynet, les otages qui racontent, qui disent quand ils m'ont pris à Nova. À Nova, ça veut dire donc Simchat Torah. Le gars, il est torse nu en train de danser. Et il dit, ils m'ont tiré, ils m'ont traîné. Je savais pas que j'étais pris otage. Je pensais qu'ils me traînaient pour m'assassiner. Et je disais Shema Israël. Jusqu'à aujourd'hui.
Ouais.
Baron Hachem, d'ailleurs, tant mieux. Rav Eli Lemel, je vous remercie. Et je vous souhaite un grand et beau Shabbat. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à Jérusalem avec Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Omevorach, Shabbat Shalom, Bezrat Hashem.
Shabbat Shalom. Alors vous voudriez intervenir ce soir dans le cadre de notre paracha sur l'épisode où Avram part en guerre pour aller chercher son neveu, Lod. Mais il y a plusieurs choses qui tournent autour de la solidarité. D'abord, il est solidaire de cet homme qui n'est pas forcément le plus sadique que lui. Il engage des gens avec lui pour aller faire la guerre, se battre. Et vous voulez nous interpeller sur l'idée de solidarité ?
Absolument, parce que bon, Avraham Avinu, évidemment, c'est le personnage emblématique du peuple juif dans la prière quotidienne, le Shmoneh Esrei. On conclut la première bénédiction en disant « Tu es source de mission de Hachem, Magen Avraham », qui est le protecteur d'Avraham. D'accord ? Avraham, c'est le symbole de celui qui exprime la royauté d'Hachem dans le monde, dans un monde hostile. Il est Ivri. Ivri étant celui qui est Ever, de l'autre côté. Il est de l'autre côté, il est d'un côté, le monde entier est de l'autre côté. Mais on a posé la question la semaine dernière et on s'interroge beaucoup chez nos sages sur l'équation Noach-Avraham. Noach n'a pas pu sauver sa génération. Et on lui reproche finalement de pas avoir été à la hauteur. C'est même pire que ça, c'est que Noach s'est beaucoup, en quelque sorte, attristé du spectacle qu'il a découvert en sortant de la Teva. Et le Zohar emploie des mots très durs à l'égard Noach en disant que Hachem l'a traité de roé choté, c'est-à-dire d'un berger finalement choté, qui manque de discernement. Pourquoi ? Parce qu'il fallait qu'il prie avant le déluge, et il s'est attristé après. Alors Avraham, lui, c'est quelqu'un qui va affirmer qui va proclamer cette notion de solidarité absolue avec le genre humain, quel qu'il soit, en tout temps, en tout lieu, cette nécessité du chesed, de la bonté, du partage, en tout temps et en tout lieu. Il va même prier pour les gens de Sodome et Gomorre, ça on en parlera plus tard la semaine prochaine. Mais là, par exemple, il a un neveu qui s'appelle Lot. Il s'est séparé de lui. Lot ne veut pas se comporter selon le code éthique d'Avraham Avinu. Il ne respecte pas notamment les lois du vol. Et Abraham lui dit, mais tu ne peux pas, tu voles. L'autre lui dit, mais la terre était promise à tes descendants. Et Abraham dit, mais pour l'instant, mes descendants ne sont pas là. Pour l'instant, la terre n'est pas à nous. Et toi, tu te comportes comme un voleur, comme un voyou. Donc, il demande à se séparer de lui. Et on voit qu'il va partir en guerre pour Lot. Au passage, petite parenthèse, la Gemara, donc dans Nédarim, nous dit qu'une des raisons pour lesquelles nous avons été envoyés en exil en Égypte, c'est au nom de Rabbi Abaou. C'est que la Gemara dit Avraham Avinu a été puni de l'exil et sa descendance de 210 ans d'exil en Égypte parce qu'il avait enrôlé des gens qui étudiaient la Torah pour aller faire la guerre. Et même si on était dans une situation de piquar nefesh, une situation d'urgence absolue où il fallait partir faire la guerre, Avraham Avinu étant le fondateur de l'humanité monothéiste et le fondateur du peuple juif, évidemment la moindre fissure à son niveau devient une béance après dans les générations futures. Et donc les sages disent attention parce qu'il y a là ici un point qui est un point qui n'est pas si naturel qu'Abraham pouvait le penser. Enrôler des gens qui étudient la Torah pour faire la guerre, c'est un problème. Abraham Avinu aurait pu enrôler une armée de cerbères et de mercenaires pour aller faire la guerre contre les rois. Il n'était pas obligé de prendre celui qui étudiait la Torah parmi ses élèves. Je referme ici la parenthèse, c'est lié à l'actualité et c'est à réfléchir. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'Abraham Avinu va aller prier pour les gens de Sodome et Gomorrhe, il va aller se battre pour l'autre qui n'est pas le plus sadique. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu a compris, après précisément ce qui est reproché à Noar, il a compris que ce qui tient avant tout le monde, c'est le chesed et c'est la bonté. Il faut expliquer pourquoi, en un point, c'est très simple. C'est que le chesed construit d'abord celui qui le fait. Ça améliore l'individu, ça ouvre son cœur, ça ouvre son esprit. Être ouvert à la souffrance des autres, être sensible à la souffrance des autres, à la peine qu'on peut causer autour de soi, ça, et au bonheur qu'on peut apporter autour de soi, c'est ouvrir son cœur à 360 degrés. Et pourquoi c'est important? On voit par exemple que nos sages sont très sceptiques vis-à-vis de Ishmaël, qui descend de Avraham Avinu et qui est tenu comme étant un Baal Chesed, comme quelqu'un à la bonté. Oui, mais c'est quelqu'un qui a de la bonté, mais sans limite, sans la limite de la Gvura, du Din. Et on voit que parmi toutes les épreuves qui vont être infligées à Avraham Avinu, la plus terrible est celle de la ligature d'Itsraël qu'on lui propose de proposer en quelque sorte son fils en sacrifice. Là-bas, il est dit à la fin que Dieu s'adresse à Abraham et lui dit « Maintenant, je sais que tu crains Elohim. » Elohim, c'est Dieu dans l'attribut de justice et de rigueur. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'Abraham Avinu avait parfaitement conscience qu'il fallait être totalement et radicalement solidaire de la misère humaine, mais qu'il ne fallait pas pour autant se perdre sur le plan spirituel, qu'il ne fallait pas pour autant se détruire sur le plan spirituel. Et là, il y a quelque chose de très intéressant que la Torah introduit, c'est la notion d'équilibre. On va se battre, oui, il est parti se battre pour l'autre, mais entendu, si quelqu'un de sa famille il est fait prisonnier, tout Am Israël s'est mobilisé pour les otages. Tout Am Israël, qui par le combat, qui par la prière, qui par la solidarité, qui n'a pas versé une larme de bonheur le jour où on a reçu les otages donc pendant la fête de Sukkot, et qui aujourd'hui n'attend pas encore avec, par la prière et avec peine qu'on rapatrie les corps des otages qui ont été assassinés. Il y a donc une nécessité de solidarité absolue. Mais il faut s'en rappeler, le chesed, la bonté, peut être dévoyée. Comme l'attribut de rigueur peut être complètement dévoyé. Il y a des gens qui sont très rigoureux, qui deviennent complètement égoïstes. Et il y a des gens qui sont dans le chesed et qui se dissolvent complètement et qui finalement n'ont plus d'identité propre. Ce que la Torah nous propose, c'est effectivement une solidarité, mais aussi un équilibre. Pensez que je dois me construire au travers du chesed et que je ne dois pas me dissoudre. C'est très intéressant parce qu'il y a par exemple il y a 21 interdits sexuels qui sont proclamés dans la Torah. Un de ces interdits s'appelle chesed. C'est-à-dire que l'individu fait du chesed. Par exemple, le fait d'avoir une relation intime avec sa sœur est un des 21 cas de relation sexuelle interdit. Mais la Torah le qualifie de chesed. Comme si en quelque sorte, parfois, la débauche provenait du fait que l'individu avait en lui beaucoup de bonté et qu'en fait, il allait se répandre chez les autres, mais n'importe comment, sans aucune limite et sans aucune retenue. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est une des clés de la Torah. L'idée qu'on se construit par le chesed et on se préserve par la rigueur et par la retenue. C'est à réfléchir. Shabbat shalom à toutes et à tous. Bezrat Hashem, que Hashem vous aide.
Mais l'équilibre, c'est peut-être le travail de toute une vie, Ravander. Et donc, on va beaucoup réfléchir. Hein,
L'oreille, c'est ozen, et c'est le même mot que izun, l'équilibre. On nous demande d'écouter, mais pourquoi?
Ravander Haïbiton, je vous remercie. Et je vous souhaite un grand et beau Shabbat à Jérusalem. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, au revoir.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gueye. Rav Gueye, bonsoir et Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Alors Rav Gueye, vous voulez revenir, vous, sur l'épisode, si on peut dire, le passage qui concerne le combat d'Abraham face aux quatre rois. C'est l'une de ses épreuves. Et vous voulez nous expliquer ce soir que, en fait, c'est une illustration, une façon de nous montrer, de nous dire que c'est une, ou de nous préparer au combat futur. Et notamment, c'est là où on va, je vois déjà les gens qui se disent, là, je veux savoir, au combat final, c'est-à-dire la fin des temps. On vous écoute.
Alors d'abord, effectivement, vous avez hésité sur le choix du mot. Vous savez qu'on dit Maaseh Avot Siman Abanim. Ce qui se passe avec les patriarches, si on traduit Siman, c'est plutôt un signe, etc. Mais en fait, il faut bien comprendre cette phrase. Les patriarches préparent l'avenir. C'est-à-dire qu'ils nous donnent les forces, à nous les descendants de ces patriarches, de résister, de trouver des solutions dans des situations difficiles. Là, ici, lorsque Abraham s'attaque aux quatre rois, qui eux-mêmes ont vaincu cinq rois, ces quatre rois très puissants symbolisent et préparent les quatre exils qui vont arriver dans l'histoire. Et lorsque Abraham va vaincre avec très peu de moyens ces quatre rois, c'est un peu une façon de dire que le peuple juif, sa victoire ne le tient pas aux armes et à la force armée, mais plutôt à sa force spirituelle et sa capacité d'être les dignes descendants d'Abraham. Abraham, il part avec toute sa émouna, sa foi. Maintenant, il sait, Abraham, que le vrai combat de ces quatre rois, ce n'est pas simplement Lot, ils veulent prendre Lot, son neveu, ils l'ont pris, Lot d'ailleurs son neveu, et Abraham vient sauver son neveu Lot des griffes de ces quatre rois. En fait, ces quatre rois sont dirigés par Nimrod, son très ancien ennemi, et ils veulent effectivement en finir avec Lot et avec Abraham aussi. Ils savent que et Abraham et Lot détiennent la clé de la fin des temps. Je vous rappelle que Lot est l'ancêtre de Ruth, que Ruth est l'ancêtre de David HaMelech, donc du Mashiach, et Lot a en lui les graines de cette délivrance finale qui viendra par le Mashiach et qui a déjà été mise en place par David HaMelech, le roi David. C'est intéressant de comprendre que, à part la volonté de prendre Lot, ils veulent également en finir avec Abraham, sachant ils savent que Abraham va intervenir, et ils se disent, il va nous faire la guerre et on va en finir avec Abraham. Malheureusement pour eux, ça ne se passe pas comme ça. Et il y a une phrase dans la Torah qui est très bizarre. « Vayechalek alem laïla ». Littéralement, la nuit s'est partagée, selon le Midrash, cette nuit-là s'est partagée en deux. Alors il s'agit de la nuit du 15 Nissan, la fameuse nuit de la sortie d'Égypte, qui a été partagée en deux. C'est-à-dire qu'Abraham a bénéficié d'un miracle dans la première moitié et nous a laissé l'autre moitié pour la sortie d'Égypte. On est là avec un Abraham qui prépare déjà la sortie d'Égypte, qui prépare déjà tous les éléments pour nous permettre de rester d'abord fidèle à son message et aussi fort pour résister aux quatre exils. Parce que les quatre exils, il faut bien comprendre que ce n'est pas un hasard s'il y en a quatre. On sait que le chiffre 4, on le retrouve le soir du Seder avec les quatre questions et les quatre coupes de vin. Les quatre questions représentent en fait aussi les quatre interrogations de l'exil. L'exil, ce n'est pas simplement un état de fait où nous sommes en dehors d'Israël et nous sommes dans des pays des fois très hostiles. Ce sont des gens qui posent des questions. C'est-à-dire, ils ont une problématique avec le peuple juif. Et le peuple juif, lorsqu'il les entend, se pose lui-même des questions. Être sorti de l'exil, c'est-à-dire avoir résolu le problématique de cet exil. Comment on l'a résolu? Par exemple, l'exil de Perse avec Assuérus, c'est Mordechai et Esther, en faisant tout ce qu'ils ont fait, qu'ils ont permis aux Juifs de sortir de cet exil. Ils ont trouvé la solution, pas seulement militaire, mais une solution d'abord spirituelle. Ils ont réveillé le cœur de leurs frères et ils leur ont permis de trouver une réponse à ce terrible exil. Les Grecs, même chose, ce sont les Asmonéens, les Hachmonaïm avec Matityahu, qui ont trouvé la solution. Et pour ce qui est de Edom, le monde occidental dans lequel nous sommes, qui nous menace aussi, eh bien, ce sera le Mashiach lui-même qui devra trouver une solution et une réponse qui n'est pas seulement une réponse militaire, une réponse d'abord de principe et de force, de mobilisation du peuple juif pour essayer de retrouver le chemin d'Abraham, pour retrouver le chemin de la victoire. Lorsqu'on parle de Maaseh Avot Siman Labanim, lorsque nos patriarches sont pour nous une sorte de préparation pour l'avenir, ils nous donnent des forces spirituelles. Si par exemple un juif décide de faire sa alia, il monte en Eretz Israël, c'est un sujet combien d'actualité, on dit que cette force-là, il a prise de l'Ech Lecha. Abraham, il a tout abandonné, il a laissé son père, il a laissé sa famille, il est parti. Il est parti vers le pays de Canaan, qui en plus n'était pas encore à lui, la terre promise, comme on l'appelle, et il a tout laissé tomber. Et il a pris le risque d'aller vers une aventure absolument difficile et incompréhensible pour lui au départ, puis après il a compris. Eh bien, tout simplement, cette force, le Lech Lecha, ça fait partie des épreuves d'Abraham, donne au peuple juif la possibilité de faire sa alia, de monter vers l'Eretz Israël, sans faire trop de calculs. Et également, cet Abraham qui se laisse jeter dans la fournaise ardente par Nimrod, eh bien, c'est tous les juifs qui ont donné leur vie pour leur foi, pour leur croyance. Et encore dernièrement, dans les tunnels du Hamas, tenir tête aux geôliers qui proposer de se convertir à l'islam, eh bien, on a vu des otages résister et qui ont pris, d'où ils ont pris cette force, quelque part aussi d'Abraham. Abraham qui a accepté d'être jeté dans une fournaise ardente et qui n'a pas renié sa foi. Tout ça, c'est l'héritage de nos ancêtres, de nos patriarches. Et nous devons en être conscients que si nous arrivons aujourd'hui à résister et à être un peuple uni et un peuple fort face aux quatre exils, eh bien c'est que tout simplement, nous avons hérité ça d'Abraham. Les quatre exils, on parlait des quatre lettres du nom de Dieu. Le nom de Dieu a quatre lettres, et en fait, il était normal, entre guillemets, prévu, visible, qu'il y ait quatre questions, c'est-à-dire qu'il y ait quatre remises en question. Dans chacun des exils, une autre problématique est posée, d'autres réponses doivent être trouvées. Et c'est un peu, vous savez, lorsqu'on prend un vaccin, on inocule un petit peu du venin, du virus, et puis on développe des anticorps. Ainsi, le peuple juif, ces quatre exils ont forgé, ont créé chez nous des anticorps, c'est-à-dire des forces spirituelles nouvelles pour nous permettre de répondre à ces questionnements qui sont des questionnements logiques, qui font partie intrinsèque de du monde, parce que le monde, il a quatre points cardinaux, quatre lieux où on peut se perdre, on peut se disperser. Et bien justement, le travail du juif, c'est de trouver des réponses et de ne pas se disperser, ne pas se laisser entraîner vers d'autres croyances, mais de rester fidèle tout en s'adaptant à la situation dans laquelle il est forcé de vivre parce qu'il est en exil. Voilà un petit peu le travail d'Abraham, un travail incroyable qui nous prépare vers la délivrance finale. Pourquoi ? Parce que la délivrance finale intervient cette fameuse nuit où, avec des moyens dérisoires, il réussit à en finir avec ses ennemis. Et puis, ces moyens dérisoires, c'est quoi ? Ben, c'est tout simplement sa foi, sa Messiah Nevesh, son don de son dévouement. Et c'est comme ça qu'il gagne la guerre et qui nous permet de vivre le soir du Seder, la deuxième moitié de la nuit. Il a bénéficié, la première partie, c'était Abraham, et puis la deuxième moitié nous est préparé pour qu'à la fin des temps, on puisse sortir d'Égypte. Et sortir d'Égypte, c'est aussi, ça nous préfigure la sortie finale, la délivrance finale. Et puis, le roi, le fameux Shem, fils de Noir, appelé Malkitsedek dans la paracha, accueille Abraham. Et puis, on sait qu'il était le roi de Shalem, Et puis, Abraham va faire Akedat Yitzhak sur le mont du Temple. Et donc, ça s'appellera Yare. Abraham est un homme craignant Dieu, donc ça s'appelle Yare. Yerushalayim, c'est cet assemblage de deux mots, Yare et Shalem. Shalem, la plénitude, d'être complet, être entier. Et Yare, être craintif, craindre Dieu. Et Yerushalayim, c'est en fait Abraham qui l'a fondé par Akedat Yitzhak et Shem, par le nom Shalem, puisque c'était un être complet, entier. Et les deux se retrouvent dans la paracha et préparent justement cette délivrance finale où finalement nous aurons Yerushalayim reconstruite et reconnue par tous les peuples comme étant le phare spirituel des nations. Shabbat shalom à tous.
Shabbat shalom, Rav. Je voudrais rappeler cependant que vous avez le gala des institutions LF, donc de cette très belle école que vous dirigez. Et on peut encore s'inscrire ?
Alors voilà, donc si si vous pouvez vous libérer le mardi 4 novembre, c'est ce mardi.
Mardi.
Ce sera au Centre européen du judaïsme à partir de 20h. Effectivement, vous êtes les bienvenus. Le gala de l'école Aleph et aussi du centre Aleph côté Beth Amidrash, les institutions Aleph qui essayent au maximum de se rendre disponibles pour chacun d'entre nous toute l'année. Eh bien, une fois par an, on vous demande si c'est possible de nous aider à pérenniser nos actions. Et vous pouvez évidemment vous inscrire sur le lien du centre Aleph. Vous rentrez sur le site centre-aleph et vous verrez là-bas le lien pour pouvoir vous inscrire.
Ah, super.
Bienvenue à tous.
Super. Alors, donc, il y a un site internet, en fait, pour Aleph. Je pense que Google va très bien nous montrer tout ça. Aleph, ça s'écrit A-L-E-F, comme François. Et on peut s'inscrire pour ce gars-là. Et c'est très important. C'est des écoles qui jouent un rôle très, très important depuis le plus jeune âge et qui suivent ensuite les enfants. C'est pas du tout. C'est là. Je pense même que, je sais pas, c'est l'école, c'est la base. Donc, eh bien voilà, celui qui a la possibilité de se libérer mardi prochain à 20h, on va dire, j'imagine.
Oui, à partir de 20h.
Mardi prochain au COJ, c'est dans le 17e. Merci. Rav Gué, c'est à mon tour de vous remercier et de vous souhaiter Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom à tous.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. Excellente soirée à tous et Shabbat Shalom. Shalom leivoy na boy, im Hashem lo yishmarih. Shav shokat shoy mai, im Hashem lo yine bayis. Shalom leivoy na boy, im Hashem lo yishmarih. Shav shokat shoy mai.